Comment est votre blanquette?
La blanquette est bonne.
C'est loin, mais c'est beau. Hein.
Je suis content que si on n'avait pas perdu une heure et quart, on serait là depuis une heure et quart.
Culturez-vous, une émission pleine de pop, pleine de culture, pleine de pop culture.
Ce n'est quand même pas Harry Potter.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Ah bon, il n'a pas de prénom.
Il s'appelle juste Leblanc.
Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros.
On en a gros.
La route, là où on va, on n'a pas besoin de route.
Messieurs, dames, et bienvenue dans Culturez-vous, l'émission de culture pop de Transistor. En ce début d'année, qui peut sembler quelque peu morose, j'ai décidé de mettre des paillettes dans votre vie grâce à un artiste haut en couleur et considéré par beaucoup comme un véritable génie musical. Il est anglais, avant-gardiste et a vendu plus de 140 millions d'albums dans le monde. Disparu le 8 janvier 2016, il reste à ce jour l'une des plus grandes icônes de la musique et de la pop culture. Je veux bien sûr parler de David Bowie. Cette année, cela fait 8 ans que le chanteur nous a quittés. 8 ans que les fans du monde entier pleurent leur idole partie soudainement après une lutte secrète contre un cancer du foie. À 69 ans, David Bowie venait de sortir son 26e album, Black Star, qui est aujourd'hui considéré comme le véritable testament musical de l'artiste. Chanteur, acteur, mime, peintre, collectionneur d'art, homme d'affaires, nombreuses sont les facettes de l'homme. Nous, on s'intéressera aujourd'hui à sa carrière de rockstar et à ses avatars. Tout au long de sa carrière, il aura changé d'apparence et de style pour proposer au monde des personnages aussi excentriques que multiples. Bowie a toujours su théâtraliser sa musique et ses œuvres, faisant de ses apparitions des moments suspendus où lui et ses avatars ne formaient plus qu'une seule et même personne. Mais avant d'incarner Ziggy Stardust, Major Tom ou encore Halloween Jack, il y avait David Jones, jeune anglais en quête de reconnaissance et prêt à devenir une star mondiale. Retour donc sur un artiste inclassable devenu légende, de ses débuts peu concluants jusqu'à son explosion et son succès mondial. C'est parti, on sort les combinaisons à paillettes et les boots compensés. Je vous amène dans l'univers époustouflant de celui qu'on appelait l'homme aux mille visages. Je m'appelle Audrey, bienvenue dans Culturez-vous. Nous sommes à Brixton, un quartier du sud de Londres en Angleterre en 1947 quand le petit David Robert Jones vient au monde. Ses deux parents travaillent et rien ne les distingue spécialement. Le petit David a une enfance qu'on pourrait qualifier de classique. À l'âge de 6 ans, David s'inscrit à la chorale de son école. Si celle-ci trouve que sa voix est passable, c'est surtout 3 ans plus tard qu'il va sortir du lot. Pas au niveau du chant, mais pour la danse. Ses professeurs sont vite conscients que ce petit gars-là a une imagination débordante. À la maison, son père, amateur de musique, fait écouter à Bowie de nombreux artistes comme Elvis Presley, les Teenagers ou encore Little Richard. Des années plus tard, Bowie confiera dans une interview pour les Un Rock et je cite « Nous étions une famille typique de la classe ouvrière, avec sa vie monotone et rangée. Rien de magique, rien de brillant. Mais à 8 ans, j'ai entendu Little Richard et j'ai su alors que cette vie n'était pas pour moi. Ce fut le déclic, la cassure. » Mais la personne qui le plongera véritablement dans l'univers de la musique et notamment du jazz, c'est son demi-frère Terry. Né d'une précédente union de sa mère, Terry est adulé par le petit David de 10 ans, son cadet. Mélomane, il amènera souvent son petit frère adolescent à des concerts de jazz et lui fera aimer Miles Davis, John Coltrane et autres grands jazzmen. Malheureusement, Terry est atteint de schizophrénie et enchaîne les longs séjours à l'hôpital psychiatrique jusqu'à son suicide en 1985. De nombreux morceaux de Bowie seront d'ailleurs inspirés des troubles mentaux de son frère, une façon pour lui, selon ses dires, d'exorciser son sentiment de culpabilité et d'échec vis-à-vis de la mort brutale de son demi-frère.
Vous écoutez Culturez-vous sur Transistor, présenté par Audrey.
À 14 ans, David Bowie, fan de jazz, reçoit en cadeau un saxophone. Peu de temps après, il commencera également à jouer du ukulélé et du piano. 2 ans plus tard, à l'âge de 16 ans, un événement inattendu va changer à tout jamais l'apparence de David Bowie. Comme vous le savez peut-être, le chanteur britannique avait un œil droit bleu et un œil gauche gris avec une pupille particulièrement dilatée. Pour beaucoup, cette particularité est due à une anomalie génétique appelée hétérochromie. Si le nom scientifique ne vous dit rien, je pense que vous y verrez plus clair si je vous parle des yeux verrons. Avoir les yeux verrons, C'est bien avoir deux yeux d'une couleur d'iris différente. Mais Bowie, lui, n'avait finalement de verron que l'apparence. Et oui, c'est à son ami de l'époque, George Underwood, que le chanteur doit son regard si particulier. Les deux adolescents sont amoureux de la même fille, et forcément, ce qui devait arriver, arriva. Ils commencent à se battre, et George décoche un sacré coup de poing à Bowie au niveau du visage, directement dans son œil gauche. Celui-ci aura depuis lors une pupille décolorée, si on peut dire, mais surtout atteinte de mydriase, c'est-à-dire qu'elle sera dilatée au maximum dès qu'il sera dans la pénombre. En tout cas, cet incident ne traumatisera visiblement pas Bowie, qui continuera d'être ami avec George Underwood. Ils joueront de la musique ensemble et George illustrera même des années plus tard les pochettes de 4 de ses albums. Mais revenons à l'époque des débuts de David Bowie dans le Swinging London des années 60. Nous sommes à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Londres est devenue la capitale de la mode et de la musique. Mini-jupe, révolution sexuelle et rébellion, les jeunes Anglais veulent casser les codes et profiter de la vie. C'est dans cette ambiance euphorique que le jeune David Jones, pas encore Bowie, décide de rejoindre son premier groupe, les Conrads. Avec son ami, le cogneur George Underwood, et quelques autres musiciens, il se lance donc dans l'enregistrement d'une première démo. Écoutez d'ailleurs cet extrait du jeune David Jones, chanteur du groupe, alors âgé de 16 ans. Fin 1963, il quitte le groupe, lassé par leur manque d'ambition. Niveau style, Bowie, qui est encore David Robert Jones, est ce qu'on appelle un mod. Dans les années 60, l'Angleterre connaît donc une vague de contestation de la jeunesse et de nombreux rassemblements de groupes de jeunes. Si chacun a son style, celui des mods est considéré comme le plus tendance de l'époque. Originaire des quartiers populaires, les jeunes mods, diminutifs de modernes, veulent changer la donne et s'opposer au manque d'opportunités et d'ambition héritées de leurs parents. Toujours tirés à quatre épingles, les mods vouent une passion pour la mode. Niveau style, ses cheveux courts avec raies marquées, chemise ou polo, cravate fine et costume sur mesure pour ces messieurs, mini-jupe graphique sur bas blanc et boots pour les demoiselles. Toujours posté sur sa Vespa parée de multiples rétroviseurs, le Mods est un fan de musique noire américaine comme le blues ou la soul. Comme les autres jeunes Mods, Bowie arpente les clubs londoniens tendance pour se montrer et se déhancher. Mais il ne connaît alors personne et malgré toute sa bonne volonté, il reste un Mods à part. À cette époque, l'adolescent a beau adopter tous les codes du Mods, il ne trouve aucune reconnaissance de la part de ses pairs. Cette espèce de rejet, Bowie le gardera toujours au fond de lui, mais réussira à en faire une force. Être à part, oui, mais pour être unique. écoutez toujours Culture et vous qui vous parle aujourd'hui d'une des plus grandes icônes de la pop culture, David Bowie. Mais ce nom d'ailleurs, David Bowie, n'apparaît qu'en 1965, moment où le jeune David Jones décide de changer de patronyme et de prendre le nom d'un vieux couteau de chasse, le couteau Bowie. Le même qu'on retrouvera plus tard à la ceinture d'un certain Crocodile Dundee. Nous sommes maintenant à la fin des années 60. Bowie a enchaîné les groupes de musique sans trouver ce qu'il cherchait, le succès. Mais en 1966, une rencontre va être déterminante pour le reste de sa carrière. Ce n'est ni un musicien, ni un producteur, mais un mime. Oui, un mime. Lindsay Kemp, danseur et mime anglais, va ouvrir à Bowie la voie de l'expression corporelle. Déjà bien branché théâtre, Bowie va suivre Kemp dans sa troupe et participer à une tournée de spectacles de mime. Le chorégraphe, qui a aussi travaillé avec le mime Marceau ou Kate Bush, sera aussi celui qui aidera Bowie à créer la scénographie de la tournée Ziggy Stardust Tour entre 1972 et 1973. Bowie aime la scène, la commedia dell'arte et l'idée d'être quelqu'un d'autre aux yeux du monde. En 1968, il rencontre l'un des amours de sa vie, la danseuse Hermione Farthingale. Avec un autre guitariste, il forme un trio musical et théâtral qui donnera quelques concerts, mais un an plus tard, le couple se sépare. Bowie est alors au fond du trou. En plus de sa rupture difficile, son premier album éponyme signé chez Derham est un échec cuisant. La maison de disques décide de mettre un terme à son contrat. En plus, lui qui rêve d'adapter la chanson de Claude François comme d'habitude, se fait voler le projet par un chanteur qui lui est connu et reconnu, Paul Anka.
And more, much more than this, I did it my way.
Mais Bowie, bien aigri à ce sujet, aura sa vengeance quelques années plus tard. Dans les années 90, il avouera dans une interview que dans son morceau « Life on Mars », il a repris et inversé les harmonies de « Comme d'habitude ». Écoutez plutôt.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no.
Revenons en 1969. Ce n'est donc pas une période très faste pour Bowie, qui trouve quand même une nouvelle maison de disques et compose un autre album. Le premier single sort en juillet 1969, quelques jours avant l'alunissage d'Apollo 11. Il s'appelle Space Oddity et après sa diffusion pour illustrer les images de la fusée à la BBC, il deviendra l'un des plus grands succès du chanteur. Et petite anecdote, quand la BBC diffuse le morceau, elle le prend tel quel. C'est l'histoire d'un dialogue entre l'astronaute Major Tom et la tour de contrôle terrienne. Jusque-là, tout va bien. Mais si finalement, elle avait su que c'était l'histoire d'un camé qui se faisait un shoot et qui décollait, pas sûr qu'elle l'aurait gardé.
Culturez-vous, c'est plein de pop, c'est plein de culture, c'est plein de pop culture.
Enfin, le single marche, mais l'album, lui, ne connaît pas un franc succès. Pourtant, Bowie sait qu'il touche du doigt la gloire et la reconnaissance, et il ne lâche pas l'affaire. Il enregistre deux albums dans la foulée, The Man Who Stole the World et Hunky Dory, sortis en 70 et 71. L'un est plus rock et électrique, quand l'autre est beaucoup plus pop. Déjà, Bowie maîtrise l'art de se renouveler. Les albums ont de bonnes critiques, mais ne font pas énormément de ventes. En 70, Bowie forme son dernier groupe avant le méga succès. Il s'appelle Hype. Parmi les musiciens, on retrouvera le guitariste et producteur Tony Visconti, avec qui Bowie continuera de travailler jusqu'à son dernier album. C'est à cette même période qu'il va rencontrer Angie Barnett, la mannequin américain va accompagner et booster Bowie dans sa carrière. En 1970, ils se marient et un an plus tard naîtra leur enfant, Duncan Bowie, dit Zoe. Angie encourage Bowie dans ses projets et valide à chaque fois ses nouveaux looks androgynes et excentriques. Pour leurs concerts à la mise en scène très théâtrale, les membres de Hype sont déguisés en espèces de super-héros de pacotille à base de capes argentées, de chemises enlamées et de slips par-dessus des collants bien moulants. Les débuts du glam rock sont là. Bowie voit bien la vague à paillettes arriver, tout comme son ami le chanteur du groupe T-Rex, Mark Bolan, qui lui connaît déjà la gloire. Hype se dissout et Bowie change de manager. Sur les conseils de sa femme Angie, il va s'associer à Tony DeFreeze. Celui-ci est considéré par beaucoup comme quelqu'un d'assez mauvais, calculateur, ambitieux et aux méthodes mafieuses. D'ailleurs, Angie Bowie dira de lui « Il était génial. C'était un voleur et un gangster. Mais quand tu veux que certaines choses soient faites, qui recrutes-tu ?» En tout cas, musicalement, les choses changent et Bowie est bien décidé à saisir sa chance lui aussi. C'est une star, il le sait, il le sent et compte bien le faire savoir au monde entier. Alors, il va créer et lancer un personnage nommé Ziggy Stardust. Ziggy sera le premier des avatars du chanteur qui révolutionneront à jamais les codes de la musique et de la mode.
Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling. He could leave 'em to hang. They came on so loaded, man. Well hung in snow white tan.
Ziggy, c'est un extraterrestre descendu sur Terre pour avertir les humains qu'il ne leur reste plus que 5 ans à vivre. Un alien androgyne au costume incroyable, créé notamment par Freddy Buretti ou Kanzai Yamamoto. Ses combinaisons colorées et ses boots inspirés du film de Kubrick Orange Mécanique sont d'ailleurs restés dans l'histoire de la mode et de la pop culture. Pour Bowie, tout s'est joué en 1972 quand il a débarqué en Ziggy sur le plateau de la BBC pour chanter Starman. Cheveux orange en brosse et nuque longue, combinaison bariolée et moulante, accompagnée de boots perchés, Bowie détonne. Son look et son interprétation révolutionnent le petit écran et scotchent tous ses spectateurs.
Time it was and the lights were low. I leaned back on my radio. Some cat was laying down some "Get It On Rock and Roll," he said.
Bowie devient alors une star mondiale. Pour la première fois, on voit à la télé un homme qui se dit bisexuel, qui assume son côté androgyne et qui balaie toutes les conventions alors en place. Tu peux être qui tu veux et comme tu veux. Voilà ce que défend Bowie. Il débute alors une tournée de 2 ans avec son groupe les Spiders from Mars. D'abord en Angleterre, puis aux États-Unis et enfin au Japon. Les États-Unis fascinent Bowie. Quand il est là-bas pour sa tournée Ziggy Stardust Tour entre 72 et 73, il compose même un nouvel album, Aladdin Sane. Album qu'il qualifiera plus tard comme étant les aventures de Ziggy en Amérique. La tournée Ziggy Stardust Tour se termine. Nous sommes le 3 juillet 1973 à l'Hammersmith Odéon de Londres et Bowie va faire une annonce fracassante à son public. Ce soir, certes, c'est le dernier concert de la tournée, mais c'est aussi le dernier concert qu'il donnera de sa vie.
Not only is it the last show of the tour, but it's the last show that we'll ever do. Thank you.
Stupeur, cris, désespoir, le public hallucine. Mais Bowie et son groupe enchaînent avec le bien nommé Rock'n'Roll Suicide. Parce que oui, c'est bien Ziggy qui se suicide ce soir-là et ne fera plus de concert. Bowie, lui, est bien vivant et compte bien continuer son aventure. Ziggy est mort, vive Ziggy! Maître du buzz avant l'heure, Bowie réussit son pari. Le monde entier a cru à la fin du chanteur et tout le monde en a parlé. Mais dans cette histoire, il y en a quand même qui se sont bien fait avoir. Ce sont ces musiciens, les Spiders from Mars, qui eux n'étaient pas du tout au courant de ce qui se tramait et qui se sont retrouvés au chômage du jour au lendemain. Sympa. Mais tout ça passe au-dessus de la fusée Bowie. Lancé dans l'univers de la gloire et du star system, plus rien ne l'arrête. Son sixième album studio, Aladdin Sane, est un succès phénoménal. C'est le premier album de Bowie à se classer numéro 1 chez lui, en Angleterre. Quant à sa pochette, elle deviendra l'une des images les plus symboliques du chanteur. Vous savez, c'est celle où on le voit sur fond blanc, cheveux rouges pétants, regard vers le sol, l'éclair bleu et rouge de Ziggy lui lacérant le visage. Iconique. Fort de son succès, Bowie se tourne vers la production. Non pas pour lui, mais pour son ami Lou Reed. Depuis qu'il a écouté le premier album du Velvet Underground que lui avait ramené son manager, Bowie voue un véritable culte à Lou Reed. Début 70, quand il découvre New York, l'un de ses objectifs est d'ailleurs de rencontrer le chanteur. Lou Reed, lui, est alors dans une période sombre dont il sortira grâce à Bowie et à son talent. Celui-ci produira l'album Transformer, duquel sortira notamment l'inoubliable Walk on the Wild Side, qui remettra Lou Reed sur les rails du succès. Et ce n'est pas le seul musicien que Bowie sauvera de la dérive. Fan des Stooges, Bowie est aussi dingue d'Iggy Pop. Mais quand il le rencontre, Iggy Pop, en proie à ses démons, a tendance à partir complètement en vrille et à se faire quelques séjours en hôpital psychiatrique. Bowie va alors l'aider à produire et enregistrer ses deux premiers albums solo, Idiot et Lust for Life. Les deux amis ne se lâcheront plus et partiront même ensemble à Berlin, histoire de se décrocher des médias, mais surtout de la drogue.
La culture pop, c'est sur Transistor avec Culturez-vous.
Après l'énorme succès de Aladdin Sane, Bowie va enchaîner les albums et les personnages, dont le pirate punk mi-homme mi-chien Halloween Jack, qui accompagnera le huitième album du chanteur Diamond Dogs. S'ensuit Young Americans, qui connaîtra lui aussi un grand succès. Mais Bowie ne va pas bien. Il se rend compte qu'il s'est fait avoir par son manager par rapport à ses droits d'auteur, les relations avec sa femme sont très tendues, et surtout, il devient complètement parano à cause de son addiction à la cocaïne. Apparaît alors le nouveau personnage de Bowie, Sin White Duke, un homme tout droit sorti d'un vieux film sombre en noir et blanc. Cheveux plaqués, chemise blanche et gilet noir, on est très loin des paillettes de Ziggy. Le visage grave et émacié de Bowie parle pour lui. Il est temps de réagir. Alors, pour décrocher de la cocaïne et du star system, il part à Berlin avec son pote Iggy Pop, qui lui aussi a bien besoin de se sevrer. Bowie composera alors trois de ses albums majeurs, Low, Heroes et Lodger. Fin 70, Bowie incarnera un dernier personnage dans son album Scary Monster and Super Creeps. Ce sera Pierrot le clown. Tous ces vieux personnages seront symboliquement tués via cet album. Bowie arrivera dans les années 80 plus posé, divorcé et apaisé, même si les critiques musicales sont un peu violentes avec lui à ce moment-là. Beaucoup disent qu'à part Let's Dance, sorti en 83, ses morceaux n'ont plus aucune créativité. Dans les années 90-2000, Bowie se marie à la mannequin Iman, avec qui il aura une petite fille. Il continue d'enregistrer des albums à succès et à partir en tournée. Mais en 2004, tout s'arrête.
Vous êtes sur Transistor et vous écoutez Culturez-vous.
Le 24 juin, Bowie, en concert à Oslo, reçoit une sucette dans l'œil. Et oui, là-bas, le lancer de sucette est une preuve d'amour. Le lendemain, le 25 juin, il est à Prague, quand au milieu du concert, il fait un malaise cardiaque. Il quitte rapidement la scène pour se faire examiner. Le 26 juin, il est en concert au festival Hurricane en Allemagne. Affaibli, il assure tout de même un petit concert, mais dès sa sortie, il est emmené aux urgences à l'hôpital pour se faire opérer du cœur. Cette même année, il devait aussi se produire aux Vieilles Charrues à Carhaix. Et dire que j'avais mes billets. Bowie ne fera plus que de très, très rares apparitions publiques. Même pour la sortie de son album The Next Day en 2013, il n'aura aucune communication avec la presse. 3 ans plus tard, sortira son ultime album Black Star. L'album sort le jour de son 69e anniversaire et deux jours plus tard, on apprendra la mort de David Bowie, emporté par un cancer du foie dont il avait toujours caché l'existence. Chanteur, mime, acteur, peintre, homme d'affaires, comme ses personnages, David Jones Bowie a été un homme aux mille facettes qui a su se réinventer et marquer à jamais l'histoire. Et voilà, c'est déjà la fin de notre émission du jour, mais je vous promets qu'on se retrouve très vite pour une émission qui sera, je vous l'assure, pleine de pop, pleine de culture, pleine de pop culture. Et en attendant, je vous fais des bisous, des bécos, et vous dis à tantôt.
Comment est votre blanquette ?
La blanquette est bonne.
C'est loin, mais c'est beau. Hein.
Je suis content que si on n'avait pas perdu une heure et quart, on serait là depuis une heure et quart.
Culturez-vous, une émission pleine de pop, pleine de culture, pleine de pop culture.
Ce n'est quand même pas Harry Potter.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Ah bon, il n'a pas de prénom.
Il s'appelle juste Leblanc.
Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros.
On en a gros.
La route, là où on va, on n'a pas besoin de route.